BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal Delphine Liu.
Que vous soyez en vacances ou encore au bureau, peu importe, on va parler tourisme dans le grand journal aujourd'hui avec nos deux premiers invités. Corinne Louison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Directour et Paul Franceschi, vous êtes expert du tourisme à l'INSEE où vous dirigez la division service. Corinne Louison, je commence par vous. On a parlé de la Grèce tout à l'heure avec la réouverture en forte baisse de la bourse d'Athènes. Comment s'en sort-elle finalement ?
Écoutez, pas si mal du tout. Je dirais qu'à la lecture, en tout cas, des premiers chiffres, nous avons une augmentation de plus 30% sur la Grèce cette année. Donc, on a eu très peur, hein, forcément, par rapport à cette crise grecque qui a occasionné un certain ralentissement des ventes de dernière minute. Mais à la fin de ce mois-ci, du mois de juillet, on est sur une évolution de plus 30% sur cette destination, qui est une vraie pépite.
Qu'est-ce qu'espèrent justement les touristes en allant là-bas ?
Alors, je pense que cette destination profite tout simplement d'un contexte géopolitique tendu. C'est une destination qui plaît énormément aux Français. C'est une destination plurielle. C'est une destination aussi qui présente un rapport qualité-prix très intéressant.
C'est devenu vraiment moins cher, là, ou finalement, ça reste sensiblement... les prix restent sensiblement similaires à ceux de l'année dernière, par exemple.
Oui, ils sont similaires. Il y a eu des offres, effectivement, de dernière minute qui ont laissé fleurir des prix très attractifs et notamment en dernière minute. Et c'est vrai, cette année, il y avait beaucoup de stocks sur cette destination.
Alors, un autre événement géopolitique a sans doute impacté, affecté le tourisme nord-africain. C'est les attentats en Tunisie, bien évidemment. Dans quelle mesure ont-ils pénalisé le tourisme au Maghreb, selon vous ?
Alors il y a eu un fort repli, j'ai envie de dire, depuis septembre dernier. Ensuite, l'appel à la vigilance renforcée du Quai d'Orsay. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Donc il y a, j'ai envie de dire, un contexte géopolitique tendu qui a favorisé un report vers d'autres destinations que les destinations du Maghreb, mais pas que. Je parle également des Émirats, Oman, Dubaï.
Tous les pays arabes.
Voilà, qui sont des destinations qu'on vendait très très bien habituellement. Et on a vu un net repli. Et ce, dès le début d'année.
Et pas seulement en Tunisie, donc.
Et pas seulement
en Tunisie. Ça affecte l'ensemble des pays arabes, aussi bien Maroc que des pays beaucoup plus loin, donc, comme vous le disiez.
Oui, totalement. Je vous donne un exemple avec le Maroc, par exemple. De janvier à mai, on a une baisse d'environ 40% sur cette destination. Donc, je pense qu'il y a une désaffection, tout simplement, des voyageurs vers ces destinations et ce qui favorise forcément d'autres destinations. Et j'ai envie de parler
justement.
La Grèce dont on parlait, mais pas que. Il y a également le Portugal, qui est une destination qui présente un rapport qualité-prix aussi formidable. Ça a favorisé également l'océan Indien, un peu plus loin, mais tout en restant proche, il y a également, l'Espagne et toutes ces destinations. Enfin, le moyen courrier profite de ce contexte.
Quid du long courrier, justement ? Quelles sont les dernières tendances ?
Alors sur les tendances long courrier, on a l'Asie, la Thaïlande, qui est une destination qui a vraiment la préférence des Français. Mais la première destination cette année, et on a vu un vrai engouement depuis le début de l'année, c'est les États-Unis.
Malgré un euro qui n'est pas forcément très favorable.
C'est vrai, ça n'a pas eu d'impact en fait. On craignait effectivement un impact sur les réservations. Je pense que les voyageurs ont tout simplement compris qu'ils auraient moins de pouvoir d'achat sur place et moins la possibilité donc d'acheter, de faire du shopping, etc. Ça reste la destination numéro un chez Directour cette année, pour cet été en tout cas.
Est-ce qu'on part toujours longtemps en été ?
Alors, on avait tendance à partir longtemps, au moins 2 semaines, et je dois constater ces derniers temps, en tout cas, une vraie évolution vers des séjours d'une semaine, ce qui veut dire qu'en tout cas, les voyageurs fractionnent énormément leurs vacances. Ils vont partir plus volontiers donc une semaine et peut-être finir le reste donc de leur congé en France, dans la famille, par exemple.
Tendance également à réserver à la dernière minute, hein, ça on le sait, c'est pas vraiment nouveau. Est-ce que ça se confirme ou...
Oui, j'ai envie même de parler d'ultra dernière minute, que ce soit en couple ou en famille. Les Français réservent de plus en plus tard. Ils restent très opportunistes, ils cherchent aussi la bonne affaire et ont effectivement du mal à se projeter, ce qui veut dire que oui, la dernière minute a marché beaucoup, beaucoup mieux encore cette année. Et pour vous donner un exemple, nous avons écoulé 60% de notre stock sur un mois de juillet. Donc tout à fait à la dernière minute, ce qui est assez stressant pour notre industrie.
Paul Franceschi, hein, vous analysez justement les comportements des vacanciers, des touristes en France. Et c'est quelque chose que vous avez pu quantifier ça dans vos
Alors,
études.
On n'a pas d'informations aussi fraîches que celle-là. Les dernières informations que nous avons reportent sur l'année 2014, à partir d'enquêtes qu'ont fait nos collègues de la Direction Générale des Entreprises, des enquêtes auprès des ménages. Mais il faut rappeler en tout cas que les Français partent à 88% en France et
oui,
seulement à 12%
à l'étranger. On vient de parler avec Corinne Louison des Français qui partaient, mais les Français continuent de plébisciter massivement l'Hexagone pour...
Alors, ils plébiscitent l'Hexagone, même si la part de l'étranger, ces dernières années, a augmenté. Mais on n'en est que à 12%. Et quand ils partent dans l'Hexagone, il faut aussi avoir en tête que dans 2 cas sur 3, ce sont dans ce que nous appelons des hébergements non marchands, c'est-à-dire dans la famille, chez les amis ou dans une résidence secondaire. Et c'est que dans 1 cas sur 3 que c'est dans un hébergement marchand. Et au total, vous avez 3 Français sur 4 qui partent en vacances au moins une fois, alors peut-être que quelques jours, qu'un week-end dans la famille, etc. Mais il n'y a que 1 Français sur 4 qui ne part pas en vacances. Donc il y a aussi un gisement sur la population de nos compatriotes, sur le développement du tourisme en France.
Et alors justement, quand ils optent pour un hébergement marchand, où vont-ils ?
Alors, sur 400 millions de nuitées qui ont été facturées en 2014, vous en avez environ 200 millions dans des hôtels, un peu plus de 110 millions dans les campings et un peu moins de 90 millions dans les autres hébergements, c'est-à-dire des résidences, des villages de vacances, mais aussi des auberges de jeunesse et toute une série d'établissements de cet ordre. Donc on voit que les hôtels sont les plus importants, mais je tiens à insister sur la part du camping qui est très forte et qui fait que la France, c'est le plus gros parc de camping d'Europe, puisqu'on représente un tiers des capacités et qu'on a une situation assez singulière en la matière.
Donc les Français continuent à aller faire du camping. C'est quoi ? C'est du camping plutôt haut de gamme ou bien toutes les catégories ?
Alors vous avez une diversification des opérateurs que l'on observe ces dernières années, de l'image que l'on peut avoir traditionnelle du camping avec des emplacements nus où chacun a porté sa tente. Vous avez maintenant une offre
avec des bungalows
de plus en plus, voilà, et tout à fait des équipements collectifs de plus en plus riches. Et ce qui fait que l'offre de certains campings ressemble beaucoup à certains villages de vacances. Mais les résidences touristiques ont des démarches similaires, puisqu'on passe d'une prestation d'un simple, enfin je parle sous le contrôle d'un professionnel, passe d'un la location d'un simple appartement avec une kitchenette à toute une série de structures collectives offertes également.
Alors les hôtels se plaignent beaucoup de l'arrivée d'Airbnb, ce service de location entre particuliers sur Internet, l'économie collaborative. Est-ce qu'on a pu quantifier véritablement l'impact de cette économie collaborative sur l'activité de l'hôtellerie traditionnelle ? Est-ce qu'il y a un réel manque à gagner ou ce sont deux offres finalement assez complémentaires ?
Alors, on dispose d'assez peu d'informations sur l'offre de Airbnb. Bon, déjà, il faut rappeler que les particuliers offrant des logements, ça ne date pas d'hier. Nous avions des gîtes ruraux, nous avions ce qu'on appelle dans le jargon des meublés touristiques, nous avions des chambres d'hôtes. Il existait toute une série de choses. Airbnb et les autres plateformes n'ont fait que dynamiser l'accès par les particuliers à des offres offertes par d'autres particuliers. Alors, nous n'avons pas à l'INSEE d'informations précises en dehors de ce qu'on peut lire chez vous et vos confrères, de l'ordre de 100 000 sans doute appartements qui seraient offerts en France, mais on ne sait pas si c'est pour quelques jours, quelques semaines, toute l'année. On n'a aucune indication sur les taux d'occupation, donc on a eu un certain brouillard sur ces chiffres. La seule chose que nous pouvons percevoir, c'est quand nous interrogeons les Français ou donc ce sont la Direction Générale des Entreprises qui interroge les ménages, les Français dans des enquêtes assez régulières qu'elle fait durant l'année, et les touristes quand ils sortent de l'Hexagone sur leur lieu de résidence, où on voit que la part des logements chez l'habitant existe, mais on n'a pas observé une très forte progression entre 2013 et 2014. C'est un phénomène significatif, mais pour le moment il reste encore assez faible.
Alors les touristes français plébiscitent l'Hexagone, il n'y a pas que, il y a aussi les touristes étrangers.
Oui.
L'an dernier, la France est restée la destination touristique
En effet, on s'accroche à ce palmarès. Donc, nous avons 84 millions de voyageurs étrangers qui sont venus en France. 84 millions de voyageurs, c'est aussi à 82% des Européens. Et alors, quelles sont les autres nationalités en dehors des Européens? Vous avez naturellement les ressortissants des États-Unis et les Chinois. Et ensuite, vous avez les Canadiens. Les Indiens est une nation qui est en forte croissance, mais qui est encore en dessous du million, etc. Donc voilà, essentiellement des Européens. Mais pour naturellement les provenances extra-européennes, c'est pour des durées de séjour plus longues que pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.
Donc, augmentation, hein, vous le disiez, des touristes chinois. Quid de la clientèle japonaise?
La clientèle japonaise reste, on était, me semble-t-il, de l'ordre de 800 000 l'année dernière. C'est quelque chose qui reste relativement stable. Il faut dire qu'en Chine, le tourisme s'est ouvert ces dernières années, alors qu'il est peut-être à un niveau de maturité différent au Japon.
La Chine, Corinne Louison, c'est une destination sur laquelle vous positionnez?
Oui,
ça démarre tout doucement.
J'ai envie de dire que c'est une destination qui repart.
C'est-à-dire qu'il y avait un coup d'arrêt.
Alors, c'est pas vraiment un coup d'arrêt, mais on va dire qu'il y a eu un fort engouement pour cette destination avec l'Expo universelle de Shanghai il y a quelques années. Donc, c'est effectivement cette destination occupait vraiment la scène, j'ai envie de dire touristique et médiatique à ce moment-là. Donc, mais ça reste une destination où il y a une demande constante. De la part donc des voyageurs, la Chine ou voire même le Japon, j'ai envie de dire plus le Japon, qui pour nous explose pour le coup.
Ah oui?
Oui, il y a une vraie, c'est après les événements donc de Fukushima, il y a eu effectivement un vrai retrait sur cette destination et là ça repart vraiment depuis 2 ans très très fort.
J'imagine qu'il y a des modes dans le tourisme. Est-ce qu'à contrario, vous avez vu des destinations très prisées tomber un peu en désuétude aujourd'hui?
Oui, il y a des effets, j'ai envie de dire, c'est plus des destinations, des fois, j'ai envie de parler d'une destination, et ça répond pas tout à fait à votre question, mais pour le coup, a vraiment le vent en poupe. J'ai envie de parler de Cuba, par exemple, où il y a vraiment là une demande qui est croissante pour cette destination. Donc on prédit déjà que ça va être une des stars de l'hiver prochain, puisqu'on a déjà une augmentation d'environ 30% de la demande pour cette destination depuis le réchauffement
des relations
avec les États-Unis,
l'ouverture du tourisme
absolument
américain.
Alors on a dans le même temps des prix qui flambent, donc c'est plus 50% et en même temps une offre hôtelière qui est essentielle assez réduite. Donc des destinations qui tombent vraiment dans l'oubli, pas vraiment. J'ai envie de dire qu'elles ont, le contexte géopolitique va favoriser des fois l'intérêt effectivement des voyageurs pour une destination plutôt qu'une autre.
Paul Franceschi, on disait tout à l'heure donc que la France restait vraiment la chouchou, que ce soit des touristes hexagonaux, que des touristes étrangers. Ça reste un poids lourd du PIB aujourd'hui, du intérieur brut en France.
Vous avez raison, le tourisme représente, la filière touristique représente 141 milliards de recettes, mais l'hébergement n'en représente que 24 milliards dans ces 141. Donc vous avez environ 35 milliards qui est lié à la restauration et à l'alimentation, et le reste, ce sont des dépenses de transport ou d'activités culturelles ou de loisirs assez larges. Donc il faut avoir en tête que même quand un touriste étranger vient dans une résidence secondaire en France, au titre de ses autres activités, il va contribuer à ce que la filière touristique nous rapporte 12 milliards au niveau du solde extérieur de la France. Voilà. Donc c'est 1,3 million de salariés aussi, la filière touristique. Donc c'est quelque chose de très important. Et naturellement, il y a des intersections fortes avec le monde de la culture, le monde des loisirs, puisque si nous avons des festivals dans l'été dans le sud de la France, ça va naturellement drainer une clientèle étrangère, mais française également, comme je vous le disais au début.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation du Grand Journal.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, Delphine Liu.
C'est le numéro 1 de la livraison de sushis en Europe, Sushi Shop, hein, qui poursuit son expansion internationale avec l'ouverture dans quelques semaines d'une boutique à Londres. Et son cofondateur est avec nous, Grégory Marciano, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'expansion internationale, on va peut-être revenir un peu sur le début de cette success story. Success story qui a démarré en 1998.
Tout à fait.
Comment est née l'idée de Sushi Shop ?
D'abord, c'est une histoire d'amitié entre mon associé Hervé Louis et moi-même, qui remonte au collège, et une envie d'entreprendre, une envie commune. Et puis, je revenais de voyage aux États-Unis. J'ai passé un an côte est et côte ouest. Et là-bas, j'ai appris à apprécier, en tout cas, les sushis. Mais des sushis un peu d'inspiration californienne. C'est-à-dire plus variés, en tout cas, que les traditionnels sushis japonais, avec un peu plus de sauce, de condiments, de variété. Et en revenant en France, j'ai voulu consommer comme je faisais aux États-Unis. Je me suis aperçu que le marché était uniquement composé de restaurants japonais traditionnels, assez chers, et qui ne proposent pas de livraison à domicile ou de rente emportée. Donc l'idée est née là.
Donc vous avez commencé quoi, à ouvrir une boutique ?
Bien sûr, un point de vente. Ça a commencé par un petit point de vente dans le 16e arrondissement, et on proposait principalement de la vente emportée et de la livraison à domicile, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Et l'idée était vraiment de démocratiser le sushi et d'introduire ces saveurs californiennes.
Alors ensuite, il y a une autre date, un clé dans le développement de Sushi Shop, c'est les franchises. 2006.
En 2007, premier salon de la franchise, avec l'arrivée de notre troisième associé, Adrien Champré, qui a eu l'idée de développer en province le sushi comme on le faisait à Paris, par le biais de la franchise, pour prendre la place, le leadership. Donc l'histoire, voilà, 2007, gros développement entre 2008 et 2011, à raison de 25 ouvertures par an, et parallèlement des ouvertures à l'international.
Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de boutiques Sushi Shop dans le monde. La moitié sont, comment dire, en intégré, l'autre est en franchisé. Comment vous faites le tri, justement ?
En fait, l'idée de base était d'avoir des boutiques en propre dans les capitales. C'est le modèle qu'on avait en France. On est d'abord des boutiques en propre sur Paris, de la franchise en province. On a ouvert quelques succursales en province également pour avoir des centres de formation. Et l'idée est de reproduire ce modèle à l'étranger. Donc, par exemple, à Milan, nous sommes en propre. À Bruxelles, nous sommes en propre. Mais nous allons aller en franchise à Rome bientôt. Nous ouvrons des franchises également en Belgique. Il en va de même pour l'Espagne. Nous sommes en propre à Madrid, en franchise à Barcelone.
Sushi Shop donc est principalement implanté en France, en tout cas pour l'instant. Vous avez donc ouvert plusieurs boutiques dans l'Hexagone. Vous êtes aussi implanté en Europe. C'est quoi la priorité aujourd'hui pour Sushi Shop ? C'est toujours plus de boutiques en France, à l'étranger. C'est reste l'Hexagone ou l'international ?
Alors notre priorité numéro 1 en termes de développement aujourd'hui, c'est Londres. On a atteint quasiment notre potentiel en France. On a ouvert Rouen, Dijon, Annemasse cette année.
Combien de boutiques aujourd'hui en France ?
Presque 90, 86 points de vente aujourd'hui en France. Mais on pense qu'on a quasiment atteint notre potentiel du fait de notre business model, la livraison de l'hypercentre-ville. On a quasiment atteint notre potentiel. Donc nos premiers leviers de croissance identifiés, c'est Londres, avec un marché très actif sur la restauration à domicile et la restauration rapide. Donc notre cible numéro 1.
Donc, ouverture de cette deuxième boutique, vous choisissez l'emplacement comment ? Alors, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent la capitale londonienne, vous ouvrez à Marylebone, qui est assez huppée. C'est toujours dans des quartiers un peu...
Alors, on fait des études. C'est assez scientifique. On fait des études que ce soit sur la densité, le pouvoir d'achat, l'âge des personnes qui vivent, etc. Ensuite, on dans un cercle qui nous permet de faire de la livraison, parce que notre métier est assez spécifique, c'est vraiment axé sur la livraison à domicile. Donc, dans un rayon de 2 km ou de 10 minutes en scooter. Et ensuite, on choisit les emplacements stratégiquement par rapport à ces études.
Vous êtes également présent ailleurs en Europe, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dans la ligne de mire de Sushi Shop aujourd'hui ?
Nous ouvrons un nouveau marché bientôt qui est le Portugal. Nous sommes en cours d'ouverture dans les Émirats. Nous avons déjà 2 points de vente à Dubaï et à Abu Dhabi, mais d'autres ouvertures qui sont suivies, Qatar, Jordanie, etc. Et en discussion sur la Pologne, par exemple. Donc après, c'est une question d'opportunité, de rencontre. Et on apprécie comme ça.
La crise, justement, au Portugal, en Espagne, etc., ça vous fait pas peur ? Ou est-ce que vous avez un magasin en Espagne ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Ou bien ça n'affecte pas vraiment les livraisons à domicile ?
En fait, nous sommes dans un segment assez premium. Nous misons vraiment sur la qualité. Donc, on arrive à bien surfer, même en temps de crise. C'est ce qui fait notre force. Et d'ailleurs, nous avons récemment ouvert Valencia. Nous ouvrons Bilbao à la rentrée. Donc, nous arrivons à très bien vivre, même en temps de crise.
Vous targuez en avoir une identité visuelle assez forte. Est-ce que vous l'adaptez au goût du pays dans lequel vous vous êtes implanté ou pas ?
On a essayé de créer une image, en tout cas, très cohérente sur tous les supports, très qualitative, on l'espère. Maintenant, c'est pas une image forcément franco-française, donc c'est une image assez internationale. En revanche,
vous décririez justement cette image parce qu'on est écouté à la radio, hein, les gens n'ont pas forcément le support de l'image. Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour
On a essayé de réinterpréter les codes japonais, des matières brutes, un univers quand même assez masculin, mais on a essayé de les réinterpréter en la modernisant, et ça à travers tous nos supports, à travers une très belle carte, à travers nos points de vente, à travers notre site internet. Donc on a essayé d'être cohérent sur tous nos supports et ça nous permet de nous développer après dans tous les pays avec une image assez identique. On fait quand même quelques adaptations sur les recettes parfois, sur le pricing évidemment.
Voilà. C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire par exemple évidemment en Suisse on vend pas au même prix qu'en Espagne. Voilà, c'est très lié au pouvoir d'achat.
L'ordre de grandeur à peu près
Je dirais en Suisse une prix de vente à peu près de 30% supérieur en France.
D'accord. Et d'autant plus en Espagne.
En Espagne.
Moins cher en France qu'en Espagne.
On va essayer. On n'adapte pas tous les prix, mais le menu déjeuner, l'offre de déjeuner, par exemple, en Allemagne, est à 9,90, alors qu'en France, elle est à 1,90. On parle de prix d'entrée. Voilà, prix d'entrée plus faible en Allemagne, va être à peu près la même chose au Portugal.
Une boutique est censée créer une vingtaine d'emplois. Vous confirmez ce...
Je dirais même 25. Je dirais même 25 emplois. Aujourd'hui, nous avons quasiment 3000 salariés dans le groupe, compris avec les franchises, évidemment.
Qu'est-ce que ça implique ? Enfin, une vingtaine de... Il y a quoi ? Les gens qui préparent en cuisine, les livreurs, les...
C'est-à-dire, le concept de Sushi Shop, c'est que chaque point de vente produit des sushis à la commande. Donc, nous avons quand même une dizaine de sushiman par point de vente, derrière une équipe de livreurs et une équipe au desk. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Donc, c'est évidemment beaucoup de personnel.
Et une boutique peut générer combien de chiffres d'affaires environ ?
Une moyenne serait de à peu près 1 500 000 euros hors taxes par an.
Et le chiffre total aujourd'hui de Sushi Shop, vous avez une estimation ?
Nous avons fait 155 millions d'euros en 2014, nous pensons faire 165 millions en 2015.
Alors quand vous avez ouvert en 98, vous étiez un peu les premiers sur le segment. Aujourd'hui, il y a un peu indigestion, je dois dire. Et comment vous faites pour vous différencier au milieu de ce maelstrom de concurrents qui livrent et qui vendent des sushis aujourd'hui ?
Je dirais qu'on a toujours eu un focus sur la qualité et on continue comme ça. On regarde bien sûr ce qui se fait à côté, mais surtout on se bat pour garder une qualité de produit, qualité de service, qualité d'accueil. Et c'est là-dessus qu'on se bat. Derrière, bien sûr, il y a un virage digital qu'on a pris avec beaucoup de nos applis Android, applis iPhone, site internet, etc., qui nous différencie un peu des indépendants. Mais surtout, je dirais la qualité.
La qualité aujourd'hui, par exemple, à Paris, vous allez vous fournir où en poisson ?
En poisson, évidemment, c'est Rungis qui fournit quasiment une grande partie d'ailleurs qui fournit toute la France et une partie de l'Europe. Et après, les origines suivant les poissons diffèrent.
Vous évoquiez à l'instant le digital, donc l'e-commerce aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de votre activité ?
C'est 40% de notre chiffre d'affaires global. Alors évidemment, ça a été un report. Avant, les gens téléphonaient, maintenant, il y a beaucoup de commandes par Internet. Mais même maintenant, sur l'emporté, avec le click and collect. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, l'Internet, 40% de notre chiffre d'affaires.
Le digital est un secteur où on doit innover constamment pour pouvoir ne serait-ce que attirer, mais peut-être garder sa clientèle. Qu'est-ce que vous avez fait en termes d'innovation justement sur le numérique ?
Alors, nos innovations sont plutôt techniques sur le numérique. C'est juste un support pour nous. Nos innovations à nous sont plutôt axées sur la cuisine, avec tous les ans une nouvelle carte, des nouvelles recettes, des partenariats avec des chefs. C'est-à-dire surprendre nos consommateurs à travers des recettes. C'est plutôt notre credo.
À l'occasion du lancement de la boutique londonienne, vous allez lancer une box spéciale. C'est quelque chose de systématique ? Ou c'est exceptionnel ?
Non, c'est vrai qu'on a toujours aimé mettre la créativité en avant chez Sushi Shop. Ça fait partie de notre ADN. Et donc, on fait une créativité à travers les partenariats avec les chefs et les recettes, mais également à travers les supports. Et donc, on demande à des designers ou des artistes de nous faire des séries limitées de box. À chaque fois, on fait appel à un artiste. Là, pour la box London, un artiste londonien qui va nous designer cette box.
Ce sera qui ?
Il s'appelle Chris Laboy. Il a collaboré avec énormément de marques. C'est un artiste assez moderne, un peu en 3D, assez surprenant.
Vous les recrutez comment, justement, ces artistes qui collaborent avec vous ?
On fait appel souvent à des agences et sinon des contacts, des rencontres.
Donc vous l'évoquiez à l'instant rapidement, vous avez développé des partenariats, notamment avec des grands chefs, hein, Joël Robuchon, Jean-François Piège, Thierry Marx. C'est des partenariats ou c'est des purs et simples contrats de pub?
C'est-à-dire que ces gens-là ne mettent pas leur nom sur une marque ou ne font pas un partenariat s'ils ne sont pas certains de la qualité, de l'hygiène, des process, etc. Vous aimez bien que Joël Robuchon est venu passer énormément de temps dans nos cuisines avant d'accepter de travailler avec nous. Évidemment, c'est un lien commercial qui nous unit avec un contrat.
Ça coûte cher d'employer Joël Robuchon au piège.
Ça coûte, ça vaut largement l'argent dépensé.
Voilà. Est-ce que vous avez vraiment un impact en termes de retombées? Vous pouvez le quantifier, ça, ou c'est vraiment une...
Alors, ce qu'on peut quantifier,
une image de marque?
Ce qu'on peut quantifier, c'est les retombées médiatiques. En revanche, pour nos clients, pour le plaisir qu'on apporte à nos clients, l'image que ça va projeter de notre marque, ça, c'est pas trop quantifiable, mais on s'aperçoit que nos clients adorent ça, donc c'est le principal.
Qu'est-ce qui vous apporte ces chefs, justement, quand ils viennent travailler, en tout cas, passer un petit peu de temps avec vous pour voir si Sushi Shop mérite qu'ils accolent leur nom à un côté de vous?
Bon, déjà, c'est un rêve de travailler avec tous ces chefs. On est passionnés de gastronomie, c'est un peu pour ça qu'on travaille là-dedans. Donc déjà, c'est un grand plaisir. Et après, c'est vraiment une crédibilité et surtout l'opportunité pour nos clients de goûter une recette faite par Robuchon, par Jean-François Piège, par Thierry Marx, alors qu'ils vivent en province, qu'ils n'ont pas accès à ces restaurants ou qu'ils ne peuvent pas se permettre de se payer ce type de restaurant-là. Donc c'est, on avait une phrase qui disait, avant, certains se vantaient que Robuchon venait chez vous, maintenant vous pourrez dire qu'il vient chez vous. Voilà, ça résume assez bien ce concept.
Mais il va y avoir un autre chef à venir, d'autres partenariats avec des étoilés?
À la rentrée, ça va être plutôt une gamme de produits on n'aura pas de partenariat avec un chef l'année prochaine. En revanche, encore des partenariats avec des artistes, mais évidemment, on reprendra sûrement ces partenariats, peut-être à l'international, peut-être avec des chefs étrangers plutôt.
Alors, il n'y a pas que les chefs avec lesquels vous signez des partenariats. Il y a des personnalités aussi diverses que Lenny Kravitz ou Kate Moss. L'envie d'aller travailler avec Lenny Kravitz ou Kate Moss, elle est dirigée par quoi exactement?
C'est vraiment, encore une fois, cette idée de mettre en avant la créativité, de trouver des artistes. Une boutique à New York, c'était l'idée de travailler avec un artiste new-yorkais. On avait la chance que Lenny Kravitz ait accepté qu'il soit aussi un artiste dans le design. Donc voilà, c'était l'opportunité pour Kate Moss. On cherchait une artiste féminine. Bon, évidemment, ça a aussi un impact marketing. C'est l'occasion pour nous de communiquer différemment.
Est-ce que vous avez donc cette nouvelle box là qui va être lancée à l'occasion de la boutique londonienne? Là aussi, comment vous choisissez vos box spéciales?
En fait, ça c'est un travail tout au long de l'année, un travail de recherche et développement. Mes associés et moi-même adorons découvrir des nouveaux japonais dans le monde. Donc on voyage beaucoup, on découvre des recettes, on travaille avec nos chefs, on essaye ces nouvelles recettes et à la fin on en tire des séries limitées ou des recettes qui viendront peut-être, une fois s'il y a du succès dans la box, intégrer notre future carte à la rentrée.
Vous changez tous les combien de recettes? Ça suit le rythme des saisons ou pas forcément?
Non, on fait une carte tous les ans. Une carte par an et quelques recettes en série limitée à chaque fois qu'il y a une box, à raison à peu près de 2 box par an.
Et en termes d'autres événements, est-ce que vous avez des projets justement en dehors de ces box spéciales ou des partenariats avec des personnalités étoilées ou non?
On est très occupé en ce moment avec beaucoup de voyages, donc beaucoup de voyages à Londres pour comprendre la ville, comprendre les endroits, recruter les bonnes personnes pour nous aider, mais également rencontrer tous nos franchisés, découvrir leurs emplacements. Donc il faut aller dans tous les pays, il faut aller en Espagne, il faut aller à Dubaï, il faut aller au Portugal. Donc un agenda déjà bien bien chargé.
Et donc est-ce que Kate Moss viendra à l'inauguration de Sushi Shop à Londres?
À Londres.
Elle qui a travaillé avec vous.
J'aimerais bien, mais pas certain.
On parlait tout à l'heure de l'expansion internationale. Quid des États-Unis? Vous avez, je crois, une boutique à New York. Là, par contre, le marché, j'imagine, il y a une concurrence dingue. La livraison de sushi, là, vous n'êtes pas tous les seuls sur une deuxième adresse à New York.
Trois adresses. Trois adresses à New York. Mais c'est un marché très compliqué, très mature, avec une compétition vraiment forte, un vrai challenge. Un vrai challenge des États-Unis, vraiment en réflexion sur est-ce vraiment le modèle Sushi Shop, est-ce que convient vraiment à ce marché-là? On est encore en train d'apprendre.
Est-ce qu'il y a d'autres pays, à contrario, qui eux sont vraiment très très bien adaptés à l'offre de sushi-shop?
Alors, en Europe, en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui d'assez évident, avec des marchés à différents niveaux. Et même l'Angleterre, qui a quand même un niveau très mature, finalement, sur le segment de la livraison à domicile dans une qualité un peu premium, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc on pense qu'on a une vraie carte à jouer. Le continent qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore de contact, on n'a pas encore essayé, on rêverait d'aller, c'est l'Asie, évidemment, ça serait fantastique.
L'Afrique?
Pourquoi pas? Mais en pleine expansion, il faut voir pour tout ce qui est approvisionnement, demande, pouvoir d'achat. C'est des études. On s'est pas encore vraiment penché dessus.
Donc cette deuxième boutique à Londres, ce sera quand exactement?
Sûrement dernière semaine de septembre.
Très bien. Merci beaucoup, hein, Grégory Marciano, d'être venu nous voir. Donc Sushi Shop, hein, premier Merci. Acteur européen de la livraison de sushis et qui donc poursuit son expansion internationale.